RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, comment circulerons-nous dans 2, 5 ou 10 ans? La voiture autonome arrive à grande vitesse sur les routes. Les constructeurs automobiles, les équipementiers, les start-up multiplient les expérimentations car le marché du véhicule sans conducteur est très prometteur. La législation évolue également pour encourager ce processus apparemment inéluctable. Un défi avant tout technologique aux implications nombreuses sur notre vie quotidienne. Sommes-nous prêts à lâcher le volant, à confier notre sécurité à des logiciels, alors que plusieurs accidents se sont déjà produits? Voiture autonome en route vers l'inconnu, de Las Vegas à Paris, grand reportage de Bruno Faure avec l'aide de nos correspondants aux États-Unis.
Début de soirée sur le Strip, l'immense boulevard qui traverse Las Vegas, capitale mondiale du jeu et le temps d'une semaine de l'innovation technologique. Dans les allées du CES, le Consumer Electronics Show, édition 2017, les constructeurs automobiles présentent leur dernière trouvaille en matière de véhicules autonomes. Ici, le japonais Nissan. Armel Guérin dirige un centre de recherche du groupe japonais basé dans la Silicon Valley en démonstration.
On a développé un système qui permet, quand la voiture va rencontrer des obstacles qui sont inattendus ou des situations où elle ne pourra pas, avec son système embarqué, pouvoir juger d'une situation, pouvoir alerter. C'est basé sur une technologie qui a été développée par la NASA et qui aide à pouvoir, depuis la Terre, contrôler des robots interplanétaires. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est la relation entre l'homme et la machine. Et c'est une équipe, en fait, pour arriver à, d'une façon stratégique, utiliser tout ce système des voitures autonomes, mais aussi l'intelligence de l'humain quand il va pouvoir juger de situations difficiles.
Ladies and gentlemen, please join me in welcoming to the CES stage Mr. Carlos Ghosn.
À ce même CES, Carlos Ghosn, patron de l'alliance Renault-Nissan, vient parler du futur.
Merci Gary et bravo pour les 50 ans de ce salon, c'est extraordinaire. Depuis quelques années d'ailleurs, c'est surtout un salon automobile. Et le contraire est vrai aussi. Les salons auto sont devenus des salons technologiques. Avec l'arrivée de la voiture autonome, électrique et connectée, on va évoluer davantage dans les 10 prochaines années que durant les 50 années précédentes. Et c'est pourquoi ni moi ni personne ne peut prévoir l'avenir.
Dans les allées du CES, des visiteurs intrigués. Ici, Kevin, ingénieur chez l'américain Intel.
Moi, je trouve ça plutôt génial. Surtout si on doit rentrer chez soi après avoir bu un coup. Ça va être difficile d'empêcher complètement les gens de conduire, mais ça peut être une solution. De toute façon, c'est l'avenir.
D'année en année, c'est bien ici, dans l'Ouest américain, que sont dévoilés les modèles qui vont changer nos vies. Notre correspondant, Eric DeSalve, a pu embarquer à bord d'un robot taxi de Lyft, l'une des sociétés de VTC les plus avancées dans ce domaine.
Bonjour.
Aux commandes, Nandita Mangal, chef du projet voiture autonome chez Aptiv, qui fournit la technologie.
What shall we do now?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
D'abord, il faut boucler votre ceinture. Génial. Voici Pat, le logiciel qui assure la sécurité. C'est lui qui dirige le système et qui s'assure que tout va bien dans le véhicule.
Pourquoi on a besoin de ça?
C'est une obligation dans l'État du Nevada. Allez, on appuie sur le bouton démarrage, comme ça Lyft sait qu'on est prêt à partir. Pour l'instant, on est en manuel. On peut voir ce qu'il y a vraiment dehors. Les points qu'on voit là, ce sont des piétons. Ils sont détectés par la voiture. C'est la même chose pour les autres véhicules. C'est une vision à 360 degrés, comme une bulle. Ça y est, on est en mode autonome. Pour tourner le volant, changer de fil, freiner, tout est contrôlé par la voiture. C'est vraiment précis, ça respecte obligatoirement les limitations de vitesse. Là, il calcule la distance avec la BMW qui est devant. Il y a un véhicule devant nous, mais la voiture va s'arrêter aussi s'il y a quelqu'un sur un passage piéton. Vous voyez, hein, la conduite est plutôt tranquille, confortable, ce n'est pas hésitant. J'ai un neveu qui apprend à conduire. Il a une conduite saccadée, inexpérimentée. Pas comme un adulte responsable qui prévoit les embûches, qui sait où ça bloque, comment aller jusqu'à sa destination. Ici, c'est Vegas. Il y a des conducteurs très agressifs qui vous font des queues de poisson ou il y a des gens qui traversent n'importe où. Donc, on fait très attention auprès des chantiers. C'est une règle que nous imposons aux conducteurs.
Là, je suis un cobaye, en fait.
Non, j'observe votre réaction. C'est quelque chose qu'on fait souvent. C'est un vrai outil de mobilité, pas juste une démo.
Hey everybody, look at me. I'm in a car, but I'm not driving.
Google, Apple, Uber, Tesla, Intel et la plupart des constructeurs. Une course de vitesse est lancée. La voiture autonome, toujours plus connectée, va rapidement changer nos vies, estime Meiss Attal, ancien ingénieur chez Renault, associé au cabinet de consultants Deloitte à Paris, responsable du secteur industrie et automobile.
Aujourd'hui, on conduit son véhicule. Demain, le véhicule va se conduire tout seul et donc permettra, par exemple, d'éliminer la deuxième voiture. Le véhicule pourra aller déposer les parents et revenir tout seul aller chercher les enfants et donc s'occuper de façon automatique de plusieurs cas d'usage. La ville devra faire évoluer ses signalétiques pour accueillir le véhicule autonome. La ville devra très probablement dédier des voies, des espaces aux véhicules autonomes, devra éduquer sa population à se comporter de façon spécifique par rapport à un véhicule autonome qui est un robot en réalité. Tout ça signifie que la ville va évoluer, donc va repenser sa mobilité.
Et finalement, l'automobile n'est plus seulement un produit.
Le véhicule, effectivement, et l'automobile va devenir un genre de condensé de produits et de services. Pourquoi ? Parce que l'attachement qu'on aura par rapport à son véhicule va changer, parce qu'on a un objet autonome. On va plus s'attacher à l'usage. Je veux partir d'un point A à un point B. Quand vous achetez aujourd'hui un billet d'avion pour partir de Paris à Luanda, vous ne savez pas quelle marque d'avion vous allez prendre. Ben, pour le véhicule demain, ça va être pareil. Quand vous voulez partir de chez vous à un point B, aller au travail ou bien aller chez le médecin, ce qui vous intéresse, c'est combien de temps je vais mettre. Et le véhicule autonome sera une des solutions en produit-service.
Une autre ville, la ville du futur, au cœur de Lyon, dans le sud-est de la France, le quartier Confluence.
Bonjour, je m'appelle Diego Isaac et je suis responsable marketing chez Navia.
Navia, start-up lyonnaise de 160 salariés, conçoit, développe et commercialise des véhicules autonomes.
Là, comme vous pouvez le voir, on a un des deux véhicules du service de Navly de Lyon qui est en train de venir vers nous de manière totalement autonome, qui opère en fait sur plus d'un kilomètre, environ sur un kilomètre et demi, le long de la rive de la Saône. Elle permet aux personnes de se déplacer, par exemple, de l'arrêt du tram jusqu'à leur bureau qui est sur le bord de la rive, ou par exemple du centre commercial à leur bureau, ou d'aller jusqu'au musée qui est au bout de la rive.
Ça ressemble pas à une voiture classique, c'est une espèce de, je sais pas, de minibus, c'est difficile à décrire.
Exactement, c'est un type de minibus, alors qui est 100% symétrique, puisqu'on n'a pas de volant ni de pédale. Comme vous le voyez, là, le véhicule vient de klaxonner, puisqu'on a des personnes qui sont sur la trajectoire du véhicule. Donc après avoir ralenti et s'être arrêté, il a klaxonné pour se frayer un chemin. Allons-y. Il repart dans l'autre sens, le véhicule, hein, si vous voulez. D'autres navettes autonomes aujourd'hui, on a plus de 65 exemplaires dans le monde entier, dans plus de 14 pays. Elles circulent en France, bien sûr, en Suisse également, après aux États-Unis, par exemple, au Japon, à Singapour, un peu sur tous les continents d'ailleurs. Et donc, on opère à la fois sur la voie publique avec des opérateurs de transport, avec et sur des sites privés comme des universités ou des aéroports.
Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Sur les pistes, le balai incessant des avions que les passagers pourront sans doute bientôt rejoindre dans ces véhicules d'un nouveau genre.
Alors, je vais vous demander de vous rapprocher et on prendra 10 personnes à l'embarquement. 10. 7 personnes, si 7 personnes veulent monter.
Le patron de Navia, Christophe Sapet, a convié les journalistes car officiellement c'est une première sur le sol français.
On va traverser, si vous voulez, une voie à forte circulation et donc sur laquelle on a nos navettes qui interagissent avec l'infrastructure, donc avec les systèmes de feu, soit dans des moments où effectivement il y a un fort trafic et auquel cas c'est le feu qui évidemment arrête la navette, soit la navette a aussi possibilité de signifier qu'elle arrive et donc elle va demander au système de feu de lui accorder la priorité. Là on voyait, on voit croiser donc un autre véhicule qui est en train de passer. Il y a 2-3 travaux, donc le véhicule bouge un peu. Mais c'est effectivement, ça donne la possibilité d'assurer aussi un système plus fluide et vous voyez d'arrêter aussi des trafics importants.
On est dans un aéroport où les gens ont besoin d'être à l'heure, hein, ils ont un avion à prendre, donc fiabilité, il faut que la fiabilité soit parfaite.
Voilà, le but de ces expérimentations, c'est aussi de mesurer la fiabilité, la ponctualité, parce que aussi, ce qu'on va attendre d'un véhicule autonome, c'est d'être peut-être plus fiable, plus flexible, on va mettre plus de petits véhicules, mais qui roulent de manière plus fréquente, et donc permettre d'assurer un meilleur service pour les usagers. Et on envisage d'avoir ce type de service, effectivement, il faut faire la liaison, par exemple, entre un terminal et puis un parking éloigné, ou entre terminaux dans différents aéroports. Et il y a cet aspect d'acceptation, si vous voulez, du grand public qui est très important. Nous, effectivement, on est très contents de faire de la technologie, mais ce qui est important, c'est que les gens se sentent en sécurité à bord, l'utilisent, soit attractif. Et plus, on fait des expérimentations comme celle-ci, et plus, effectivement, on a de chances de convaincre les politiques de faire avancer la réglementation, prouver un peu que tout cela fonctionne, quoi. C'est un peu le principe.
Les 2-3 accidents qui ont eu lieu aux États-Unis, ça vous interroge aussi?
Est-ce que c'est... Ça ne peut que nous interroger. Vous savez qu'un des enjeux aussi des véhicules autonomes, c'est de diminuer la sinistralité. 90% des accidents de la route sont liés à un phénomène humain. Donc le fait d'avoir des systèmes complètement automatiques, avec, si vous voulez, des capteurs qui sont capables de faire agir le véhicule avec une très courte phénomène de décision et pas de l'ordre d'une demi-seconde ou d'une seconde pour un humain qui entraîne 20 mètres parcourus, bah, ça va dans le bon sens. Bon, maintenant, effectivement, il faut que tous les acteurs de ce métier maximisent les conditions de sécurité pour les usagers. Maintenant, il faut qu'on apprenne, qu'on collabore, si vous voulez, avec les autorités. Donc, chaque fois qu'il y a un incident, tout le monde participe. Et puis, il y a 13 ou 14 000 morts aux États-Unis par an. Bon, si jamais on arrive à mettre beaucoup de véhicules autonomes, qu'on ait commis 5 000 vies, remettez ça en perspective avec peut-être, malheureusement, un ou deux accidents.
On doit repartir, ouais.
Priorité sécurité, confort du passager. Des laboratoires travaillent sur ces questions.
Ici, nous sommes dans un environnement virtuel, en simulateur.
Catherine Gabaud, directrice de recherche à l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies des transports.
En fait, il s'agit de reconstituer en 3D un environnement, donc des routes à une voie, deux voies, et puis de faire un habillage des scènes routières pour y mettre des habitations, des arbres, pour recréer des environnements un petit peu naturels qu'on pourrait trouver.
Donc c'est une vraie voiture?
Voilà, c'est une vraie voiture qui a été modifiée, en fait. Hein, c'est tout piloté par ordinateur. Et puis les bruits que vous entendez là, ce sont des bruits de synthèse qui ont été refaits. En fonction des accélérations et des décélérations du véhicule, le régime moteur va changer. Je gère les commandes, je freine, j'accélère. Voilà, par exemple là on s'est arrêté rapidement, on va redémarrer, on entend que ça redémarre, je refreine à nouveau.
Simuler la réalité et imaginer les problèmes que pourrait poser sur les routes la voiture autonome.
Il y a deux grandes catégories de situations. Aujourd'hui, on commence à parler de platooning, ces trains de camions qui rouleraient sur l'autoroute pour optimiser le trafic. Quand on veut sortir de l'autoroute qu'on est dans son petit véhicule léger, là, puis qu'on est face à un train de véhicule qui s'est sur la voie de droite, comment est-ce qu'on trouve son créneau pour arriver à sortir de l'autoroute? Le système, par exemple, est un peu défaillant, où il demande à un conducteur de reprendre la main parce qu'il a un capteur qui tombe en panne. Et là, cette reprise en main, si elle se passe dans des situations où il y a un danger potentiel qui surgit dans les 2-3 secondes, il faut arriver à trouver des règles de décision. Certains vont complètement partir ailleurs et puis penser à autre chose et ne plus être à la tâche de conduite, alors que d'autres resteront un peu plus défiants vis-à-vis de la techno et vont vouloir quand même surveiller le système. Donc on imagine que derrière, les comportements des conducteurs ou des superviseurs vont être complètement différents. Si chaque pays instaure des règles un peu différentes, ben ça va devenir quelque chose d'un peu compliqué. Par exemple, aux États-Unis, on a l'habitude de rouler sur des grandes routes où le trafic est plutôt pacifié, où on est tous sur 3-4 voies alignées à la même vitesse et ça pose pas de problème. En Europe, on n'a pas les mêmes types de comportements.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ?
Pierre Chasseret, je suis le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
Où est-ce qu'on est là ?
Ben là, on est en plein dans les bouchons parisiens. On n'est pas loin des quais de Seine. Et j'ai peur que pour certains, ça risque d'être compliqué, horaire de sortie de travail.
Vous imaginez une circulation régulée par des voitures autonomes ?
Aujourd'hui, non. Mais dans 20 ans, 30 ans, qui sait, pourquoi pas ? Peut-être que le véhicule autonome pourrait être une solution intéressante dans ces moments de bouchons. Là, le plaisir de conduire, il n'est pas là.
Les promoteurs de la voiture autonome disent « c'est plus de sécurité et c'est moins de pollution ».
Alors c'est plus de sécurité, oui, ça c'est une évidence. À partir du moment où on confie la sécurité à de l'électronique, il y a moins de failles. Donc oui, il y a moins d'accidents que le véhicule auto, mais il n'est pas sans poser quelques problèmes d'acceptabilité. Est-ce qu'on est prêt, quand bien même c'est plus sécurisant, est-ce qu'on est prêt à confier sa vie à une machine, à un programme ? Moi je ne sais pas quel programme sera à l'intérieur de ce véhicule autonome, quelle faille il peut y avoir. J'ai pas l'impression que pour l'instant... On regarde tout ça de loin en tant qu'automobiliste, mais j'ai pas l'impression qu'on a envie vraiment d'être dedans, dans ce véhicule autonome. C'est pas totalement rassurant. Et pourtant, regardons ce qui se passe dans l'aviation. Le pilote automatique, il est activé pendant quasiment tout le vol. Qu'est-ce qui va en être pour le véhicule autonome ? Qu'est-ce qu'on va choisir de faire couvrir par l'automobiliste ? Qui porte la responsabilité en cas d'accident ? Est-ce qu'on est prêt à confier sa vie à un programme ? Prenons un exemple concret. Un véhicule autonome est sur la route d'un cycliste qui fait une erreur. Et le cycliste va être percuté par le véhicule autonome. Quel choix va faire le véhicule ? Sauver la vie du cycliste et faire une embardée au véhicule sur la droite ou la gauche et faire prendre un risque aux passagers du véhicule alors qu'il ne faisait rien ? Ou alors décider de percuter le cycliste en tort ? J'ai du mal à imaginer qu'on aille percuter le cycliste en tort. Donc ça veut dire que le véhicule fera peut-être le choix de faire prendre un risque aux passagers du véhicule. Est-ce qu'en tant que passager qui paye le véhicule, je suis prêt à accepter que mon véhicule me fasse prendre un tel risque.
En tant qu'automobiliste, il y a un plaisir à conduire. Qu'est-ce que ça vous inspire de vous enlever ce plaisir ?
Moi, je suis de la génération jeux vidéo qui a connu l'éclosion de la Mega Drive, de la Master System, de la Nintendo, qui maintenant voit son fils grandir en jouant à des jeux vidéo de voitures. Mon petit bout a 9 ans et lui, son ultime plaisir va être de conduire une voiture. On n'est pas encore sur une génération à venir qui est prête à lâcher le volant. On le voit bien, Google qui remet à l'intérieur de sa Google Car un volant, un pédalier. Le plaisir de conduite existe encore. Alors certes, pas toujours dans les bouchons, mais quand même, le plaisir est encore là. Je ne suis pas persuadé que le véhicule autonome aujourd'hui vienne remplacer ce plaisir de conduite.
Voiture autonome en route vers l'inconnu. Grand reportage Bruno Faure avec nos correspondants aux États-Unis, Grégoire Pourtier et Éric De Salve. Réalisation Mathias Taylor.
Elle sait conduire une automobile, Cécile, Cécile. La mécanique pour elle c'est le bonheur. Elle connaît tous les secrets du moteur. Aussi, elle ne se fait jamais de ville, Cécile, Cécile. Elle ne sait pas de rien. Elle est plus forte qu'un vrai mécanicien.